à l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Informations en ce mardi 19 décembre. L'Union des municipalités du Québec, de même que la Fédération québécoise des municipalités, FQM, et les villes de Montréal et Québec, ont procédé jeudi dernier à la signature de leur déclaration de réciprocité avec le gouvernement du Québec concernant la nouvelle entente qui succède au pacte fiscal de 2019. Madame Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue et également administratrice et membre du comité exécutif de la FQM, précise les nouveaux paramètres qui ont mené à cette signature.
On a des pactes fiscaux sur 5 ans, mais on a constaté au cours des dernières années que entre les signatures de pactes fiscaux, il arrive souvent des épisodes qui oblige à réfléchir. Et dans ce contexte-là, le gouvernement a dit « on va arrêter de le négocier aux 5 ans, on va se rencontrer sur une base beaucoup plus régulière pour être capable de traiter des dossiers d'actualité ».
Avec cette nouvelle entente, Québec accepte notamment de mettre à la disposition des municipalités et des MRC une somme de 500 millions de dollars pour les aider à s'adapter au contre-coup des changements climatiques.
Chaque territoire des MRC va pouvoir identifier ses fragilités, les enjeux auxquels il fera face de façon particulière, et il va pouvoir établir un plan d'action pour faire face à ces enjeux-là, de sorte que les territoires seront mieux outillés, mieux préparés et plus solides face à des épisodes liés aux changements et aux dérèglements climatiques.
La FQM a aussi réussi à obtenir 10 millions de dollars supplémentaires en 2024 pour les municipalités de 15 000 habitants et moins.
Souvent, les budgets sont alloués selon la population. Alors, les municipalités de moins de 15 000 habitants sont souvent celles qui reçoivent le moins, étant donné qu'elles ont moins de population. Chez nous, toutes les municipalités sont concernées par ce bonus-là, parce que justement, toutes nos municipalités comptent moins de 3 000 citoyens et citoyennes.
Autre fait important de cette entente, le gouvernement s'est engagé à déterminer une nouvelle formule de partage du point de croissance de la TVQ, basée sur des éléments autres que la population, qui permettra une répartition plus équitable.
Ça restera à finaliser comme négociation, mais notre proposition, ça a été de dire à chaque tranche de 500 millions, il y a 50 millions qui est partagé aux plus petites municipalités de 50 000 de population et moins. Alors, de répartir la somme de façon plus équitable, on estime que c'est un gain pour les plus petites municipalités encore une fois.
Finalement, l'un des éléments qui demeure important pour Mme Bolduc est le maintien du fonds Région-Ruralité.
C'est aussi des bonnes nouvelles pour le monde municipal de savoir que l'enveloppe du fonds Région-Ruralité, même si elle n'est pas indexée, elle est reconduite sur un horizon non déterminé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fin à cette enveloppe-là. Pour nous, ça représentait 20 millions au cours des 5 dernières années. Ça reste disponible autant pour les municipalités que pour les organismes sans but lucratif qui font la qualité de vie dans nos milieux.
Des citoyens de Rimini ont créé une fondation dans le but de préserver et mettre en valeur le patrimoine de la municipalité. La fondation Legs de nos aïeux de Rimini, qui a été officialisée en juin 2023 et a lancé cette semaine son site Internet. Madame Micheline Barrette, présidente, secrétaire et cofondatrice de la fondation, nous explique les motivations de ce projet.
Ça fait plusieurs années qu'on essaye de trouver une façon d'attirer les gens à être intéressés à ce patrimoine, pas juste le préserver, le valoriser, le mettre de l'avant puis le rendre intéressant, dynamique. On a toutes sortes de projets aussi d'offres touristiques.
Pour le moment, l'organisme se concentre sur 2 bâtiments historiques importants pour l'histoire de Rimini, soit le moulin à aubes La Jeunesse, construit en 1938, mais qui est actuellement très détérioré, ainsi que l'église qui présente des caractéristiques particulières.
Autant au niveau de son architecture que l'histoire de sa construction. C'est vraiment très, très bien documenté aussi. On a des documents d'archives audiovisuelles qui ont été tournés dans les années 30, qui relatent la vie quotidienne des citoyens de Rimini à l'époque et aussi de la construction comme telle là, de ce bâtiment en pierre de granit.
Afin de concrétiser ces projets, le comité a mis en ligne un site web qui permet à la population d'en apprendre davantage sur le patrimoine de Rimini et de suivre l'évolution des projets en cours. Ce site sert également de plateforme pour recueillir des dons.
Le patrimoine, ça coûte toujours cher. Les bâtiments anciens, ça coûte cher à maintenir. Le 100e de Rimini s'en vient en 2035. Fait que oui, on a des objectifs là, qui vont au-delà d'un million. Là. Mais c'est petit peu par petit peu qu'on va réussir à atteindre nos objectifs. Qui permet le site en ce moment grâce à sa plateforme transactionnelle, c'est que ça permet justement de pouvoir recevoir des dons sur une base permanente, pas juste d'attendre des campagnes.
Actuellement, un tirage est aussi organisé pour gagner une reproduction miniature du moulin à aubes de Rémigny. La population peut également suivre les développements sur la page Facebook Fondation L'Aigle de nos aïeux de Rémigny. Le Conseil des arts et des lettres du Québec a dévoilé les finalistes du prix du Calque, artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue, qui vise à reconnaître l'excellence d'un ou une artiste professionnelle de la région dans n'importe quelle discipline artistique. Pour 2023-24, les trois finalistes sont la joaillière Caroline Arbour, basée à Amos, Martha Sanhez de la Calzada, comédienne, poète et conteuse, ainsi que Dominique Lafontaine de la Première Nation de Témiscamingue. L'artiste Anishinaabe se dit d'ailleurs très emballé par cette nomination.
C'est fun d'être reconnu, c'est sûr. Ça me donne un peu la perspective de l'année en même temps. C'est comme, oh wow, j'ai tout fait ça, puis je continue à en faire.
Dominique Lafontaine se distingue par une démarche artistique innovante au carrefour des arts visuels et numériques. Il emploie l'intelligence artificielle pour revisiter les paradigmes et enjeux relevant de l'histoire de l'art occidental, de l'art autochtone et de la technologie.
C'est vraiment une grosse partie de ma démarche, puis j'ai une expo tout de suite au Centre Daphné à Montréal qui traite du wampum, mais à travers la lentille de l'intelligence artificielle.
Déterminé par un comité de sélection interrégionale, le lauréat ou la lauréate du prix artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue sera connu le 25 janvier prochain lors d'un 5 à 7 culturel qui se tiendra à l'Agora des arts de Rouyn-Noranda. Voilà ce qui complète ce bulletin d'information. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.